Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble, comme vous le savez, jusqu'à midi. Ce matin, nous aurons le grand plaisir d'accueillir deux invités. Auteur, productrice et conférencière, Marianne Vourche propose pour la saison une nouvelle série « Raconte-moi la musique » avec les élèves de l'École normale de musique de Paris. Un nouveau format de concert découverte, commenté, destiné à un public familial, mais aussi aux écoles et collèges, dans le cadre exceptionnel de la salle Cortot. Nous l'accueillerons dans la seconde partie de notre émission. Et après un premier album, Voltige, lui ayant permis de faire montre de sa virtuosité hors du commun et de la profondeur de son jeu, le pianiste Tristan Pfaff sort une suite tout aussi ébouriffante, Voltige 2, sous le label Ad Vitam. Bonjour Tristan Pfaff.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans ce studio de IDFM Radio que vous connaissez bien.
Ah oui, à une époque, j'ai même co-animé avec Monsieur Ventre,
que nous saluons,
qui est la légende, qui a été l'âme d'IDFM pendant bien longtemps.
D'ailleurs, dont le studio porte son nom.
Absolument.
Vous avez été l'élève de grands pédagogues au CNSMD de Paris, Michel Béroff et Denis Pascal, avant de bénéficier des conseils du grand Aldo Ciccolini. Vainqueur ou lauréat de nombreux concours internationaux, comme le Long Thibaud à Paris, vous êtes l'invité régulier des festivals les plus renommés. Auvers-sur-Oise, Les Folles Journées, La Roque d'Anthéron, Chopin-Nohan, Menton et beaucoup d'autres. Vous vous produisez en soliste avec des orchestres comme l'Orchestre National de France, le BBC Scottish Symphony Orchestra, l'Orchestre de Bretagne et la semaine dernière, l'Orchestre de Chambre de Lyon pour le premier concerto de Franz Liszt. Vous êtes invité dans des salles prestigieuses, Cité de la Musique, Salle Gaveau, Salle Cortot, Hôtel Matignon, Victoria Hall de Londres. Votre discographie avec le label Ad Vitam est particulièrement éclectique et toujours bien accueillie par la critique. Les études de Carole Beffa, des pièces de jeunesse de Kabalevski et Khatchatourian, les valses de Chopin et Voltige 1, puisqu'il y a une suite aujourd'hui, une première anthologie de pièces d'une impressionnante virtuosité dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler à ce micro. Et vous sortez votre 9e album le 6 février, Voltige 2. Ce sera donc une avant-première pour nos auditeurs, un programme très varié, toujours placé sous le signe de l'extrême virtuosité, mais pas seulement, Tristan.
Non, évidemment, on sait tous que la virtuosité, c'est un moyen, c'est pas une fin. Mais là, ce que j'ai voulu, comme pour le premier Voltige, c'était quand même des pièces d'une virtuosité totalement assumée, totalement extravagante, totalement folle. C'était l'idée, ça me plaisait bien.
Pourquoi avoir choisi d'ouvrir votre disque avec le prélude et allegro de Kreisler dans le style de Pugnani, un compositeur et violoniste turinois de l'ère baroque, qui est en fait un pastiche?
C'est un pastiche, c'est une pièce de genre composée par Kreisler et qui a été ensuite arrangée pour piano seul. Bon, un prélude, c'est fait pour ouvrir, hein, par définition, donc voilà.
Kreisler, c'était un immense violoniste, mais qui était aussi un compositeur, comme vous l'avez dit, de pièces de genre, de pièces de salon, comme diraient certains. Et moi, je dirais des petits bijoux, un peu à l'instar de ceux de Forêt.
Moi, j'adore Kreisler comme violoniste, même si c'est un jeu super daté, il gagnerait pas des concours aujourd'hui, mais peu importe, j'aime beaucoup. Et effectivement, je joue souvent, j'accompagne de temps en temps des violonistes, et si c'est possible, de mettre les danses viennoises, Schönrosmarine, Liebeslied.
D'Empire austro-hongrois.
Oui, et puis tous les pastiches de baroque, parce qu'il n'y a pas seulement ce Pugnani, il y en a d'autres. Il y a des variations. Enfin, bon, il y a plein de pièces et il y a plein d'adaptations. Il y a danse espagnole, il y a le tango d'Albéniz. Il y en a plein et tout est génial. Je suis vraiment un grand admirateur de Kreisler.
On vous écoute, Tristan Pfaff, dans le prélude et allegro de Kreisler.
Thank you.
Après Kreisler, Prokofiev. Changement de style, Tristan, avec cette Mephisto Valse. Un hommage à Liszt par un immense compositeur russe, également grand virtuose du piano, comme l'était son génial prédécesseur hongrois.
Alors, je vais vous dire comment j'ai découvert cette pièce. J'étais un jury de concours, un niveau moyen plus, moyen supérieur, et je vois Mephisto Valse, et je vois à côté Prokofiev. Première chose que je me dis, bêtement, je me dis, ah, tiens, il y a une coquille, c'est une erreur. Et puis j'entends que ça commence et que c'est pas du tout Mephisto Valse de Liszt, mais pas du tout. Et que c'est bien, bel et bien Mephisto Valse de Prokofiev, au renseignement pris. Et j'ai un coup de cœur pour la pièce. Je me dis, mais c'est génial, il faut absolument que je mette ça dans mon répertoire un jour. Et quand j'ai eu l'idée de faire Voltige 2, j'y ai repensé et je l'ai inclus dans le programme.
Voilà l'explication. On écoute cette Mephisto Valse qui vous a tapé dans l'oreille, Tristan Pfaff, de Prokofiev et non pas de Liszt. C'était Mephisto Valse de Prokofiev sur IDFM Radio par notre invité en balade musicale, le pianiste Tristan Pfaff. Il y a une pièce que j'adore, Tristan, c'est L'île joyeuse de Debussy. Debussy était lui-même un grand admirateur de Liszt, dont il avait eu la chance d'ailleurs d'écouter un concert lorsqu'il était pensionnaire à la Villa Médicis. Debussy était un bon pianiste, Tristan, mais apparemment... La pièce que vous allez bientôt nous interpréter, était L'île joyeuse en l'occurrence, semblait un petit peu difficile pour sa technique.
C'est possible. C'est une pièce particulièrement brillante dans l'œuvre pour piano de Debussy. Il y a les études, il y a quelques préludes qui sont un peu délicats à aborder techniquement, mais en général, c'est pas vraiment un problème. C'est accessible, on va dire, au tout venant pianistique. Mais L'île joyeuse, c'est une pièce assez brillante. Et pour cause, c'est censé... bon, supposément illustrer un peu son vrai faux voyage de noces. Donc c'est une pièce très joyeuse, très démonstrative et qui avait toute sa place dans ce programme.
Alors c'était un embarquement pour Cythère, ce qu'on a dit, mais enfin Cythère, c'était beaucoup plus près puisque c'était en l'occurrence Jersey. Donc pas très loin de la France, et c'était avec la belle Emma Barda, qui avait été, il y a quelques années avant, la muse de Forêt, et qui entre-temps s'était mariée avec un riche banquier, et qui l'avait d'ailleurs, elle l'avait abandonnée pour partir avec Debussy vivre une passion frénétique.
Thank you.
On attend les applaudissements après cette interprétation de L'île joyeuse de Debussy par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Tristan Pfaff. Dans votre nouveau disque Voltige 2, sorti chez Ad Vitam, il y a des transcriptions de Carmen de Georges Bizet, du Barbier de Séville de Rossini, du Faust de Gounod par Liszt, et aussi une pièce que vous m'avez fait découvrir, je dois dire, cette Mary Poppins Fantasy, qui a rencontré beaucoup de succès dans des concerts privés avant son enregistrement.
Oui, j'ai découvert cette pièce par un pianiste amateur de très très haut niveau. Je connaissais pas du tout, pour vous dire franchement, je lui ai piqué dès que j'ai pu. Il m'a très gentiment envoyé la partition et voilà. Bah pareil, hein, j'ai pas hésité longtemps à l'inclure dans le programme.
Alors c'est un arrangement des chansons du film de production Walt Disney, composé par Richard Sherman. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs au 19e siècle, notamment sous la plume de Liszt.
Oui, là c'est tout à fait dans le grand style listien, grand style 19e siècle, on va dire. C'est un pot pourri des thèmes principaux de Mary Poppins qu'on identifie parfaitement bien.
Un arrangement d'une certaine Natalia Tenenbaum, une pianiste new-yorkaise, je crois.
Alors oui et non, l'arrangement datait avant elle, c'était un collectif de pianistes. Alors je suis pas extrêmement à l'aise pour en parler parce que je connais pas trop dans le détail. Comme d'habitude, j'ai jamais une approche très intellectuelle ou très musicologique, faut pas me citer là-dessus.
L'important, mais c'est la musique.
Mais voilà, j'ai pas de filtre, je vais directement à la pièce qui me plaît sans toujours savoir les tenants et les aboutissants de la création, tout ça. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, c'est elle qui a dû déposer.
Ouais, voilà, elle a été la plus intelligente, efficace. On écoute cette Mary Poppins Fantasy sous vos doigts, Tristan Pfaff.
Thank you.
Notre invité en balade musicale, le pianiste Tristan Pfaff, était l'interprète de cet arrangement des thèmes du film Mary Poppins, extrait de son nouvel album Voltige 2, qui sortira le 6 février sous le label Ad Vitam. On lui souhaite le même succès que pour le précédent Voltige 1 que vous pouvez encore acquérir. Les deux enregistrements vous procureront un très grand plaisir d'écoute. Avant de nous quitter, Tristan, parlez-nous de votre actualité.
Alors, pour les plus parisiens de nos auditeurs, je vais jouer le deuxième concerto de Saint-Saëns, ce sera dans l'Essonne.
L'œuvre de grande virtuosité.
Oui, 14 et 15 mars. Et pour les plus vendéens, il y aura mon festival, le printemps musical de La Roche-sur-Yon. Donc ça se passe à La Roche-sur-Yon, les 8, 9 et 10 mai, avec un programme assez grandiose. J'en suis très très fier cette année. On a une chorale quatuor à cordes et piano, dans le même concert.
Ah oui.
Ensuite, une soirée tango Piazzolla en trio avec des danseurs, d'autres surprises. J'en dis pas plus pour l'instant. Et un duo piano-violon pour terminer avec une création, une pièce autour de la spiritualité tibétaine avec des instruments tibétains, gong, percussions, etc., bol.
Donc un programme très varié pour un week-end en réalité, ou c'est pendant la semaine, c'est au moment du...
C'est week-end 8, ouais. 9, 10 et vendredi, samedi, dimanche.
Donc si vous avez l'occasion de vous rendre en Vendée, très belle région, où il fera un peu plus beau qu'actuellement...
Il y a des chances.
Voilà, ce sera finalement un printemps en Vendée, grâce à vous Tristan Pfaff. C'est la combientième édition déjà de votre festival?
C'est la 7e édition déjà.
Déjà, bravo, écoutez, on vous souhaite bon vent. Merci Tristan Pfaff.
Merci à vous.
Bonne journée et bon concert. Et revenez bien sûr nous voir quand vous voudrez.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Marianne Vourche.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio pour nous parler de votre nouvelle série « Raconte-moi la musique » avec les élèves de l'École normale de musique de Paris. Dans un nouveau format de concerts découvertes commentées, destinés à un public familial, mais aussi aux écoles et collèges, dans le cadre exceptionnel de la salle Cortot. Rappelons à nos auditeurs, Marianne Vourche, que vous poursuivez une mission à laquelle vous consacrez depuis de nombreuses années toute votre énergie et votre talent en vue de promouvoir la musique classique auprès du jeune public. Raconte-moi la musique s'inscrit dans la lignée de la série des concerts du mercredi, malheureusement interrompus par le Covid, des éditions Villanelle et de vos émissions sur France Musique, Histoire de musique et le journal intime de, incarné par de très grands comédiens comme Lambert Wilson, Carole Bouquet, Denis Podalydès, Josiane Balasco et qui ont connu un très grand succès d'audience. Les objectifs majeurs de cette nouvelle série, ce sont la transmission et le partage de la musique, Marianne Vourche.
Absolument, absolument, merci à vous. Surtout le partage et le goût, c'est un peu comme quand on fait découvrir une nouvelle recette de cuisine, eh bien on a tous envie d'être autour de la table et de savourer, et puis ensuite on donne la recette, et puis ensuite on donne les petits coups de main, les petites astuces, et je crois que découvrir la musique classique pour moi devrait être un petit peu dans cette même démarche, c'est-à-dire découvrir les saveurs, les tonalités magnifiques, la démarche des compositeurs, c'est comme la démarche d'une cuisinière finalement. Enfin, c'est tout des passerelles que j'aime mettre en place pour avant tout montrer que la musique, j'aime pas trop dire classique, la musique en soi a des merveilles qu'il suffit pas grand-chose pour les découvrir.
Comment faites-vous, Marianne Vourche, pour faire tomber une sorte de barrière entre cette musique dite classique, considérée d'ailleurs à tort comme réservée à une élite et à un public plus âgé, vis-à-vis des plus jeunes?
Oui, en fait, le langage de la musique classique apparaît souvent comme très abstrait, un petit peu comme les mathématiques pour les enfants. Et donc, il est normal à l'âge de l'enfance et des jeunes adolescents de ne pas trouver l'accès facilement à ce langage. Donc il me semble important et plus chaleureux de comme pour traverser une rivière, de tendre la main et donc par là, en racontant l'histoire de ses œuvres, en les chantant, en les dansant, en donnant des exemples pour découvrir ce qui se passe plutôt à la main droite ou sur un piano ou à la main gauche, ce qu'a voulu dire le compositeur, quelle était sa vie, quelle était son histoire. Donc c'est raconter, c'est parler, c'est partager pour justement qu'il n'y ait plus du tout de barrière. C'est un peu comme une grande balade qu'on effectue ensemble.
Et ces musiciens sont des étudiants de l'École normale de musique.
Alors absolument, pour cette série, nous sommes avec la salle Cortot dans une forme de partenariat, mais très 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 joyeux et très agréable avec les élèves de l'École normale, qui ont tous des talents magnifiques et qui sont très heureux de partager ces concerts, d'y participer, parce que c'est une occasion rare que d'avoir ces moments justement d'écoute avec un public qui n'est pas acquis. C'est toute la différence avec un public d'adultes, mais là il y a aussi des adultes, mais le public qui est important à nos yeux de conquérir, mais par la douceur et le partage, encore une fois, c'est le jeune public. Donc les élèves de l'École normale découvrent ces échanges, ces jeux, parce que les enfants ont des questionnaires auxquels ils répondent, qui sont en fait des jeux concours. Ils doivent découvrir ce que c'est que cette tonalité mineure qui finalement, comme par exemple au premier concert autour de Mozart, eh bien on découvrait l'humeur de la musique, et c'était un peu comme pour eux l'humeur d'une peinture. Est-ce qu'on, quand on a des pinceaux, des couleurs sombres, eh bien on est plutôt dans du mineur par exemple.
Ça a été grand succès, ce premier concert justement de cette nouvelle série auprès du jeune public et des moins jeunes d'ailleurs, qui accompagnaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et notamment avec un extrait du duo Papagena-Papageno de la fin du deuxième acte de La Flûte enchantée.
Papageno, 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 Papage
le très joyeux duo Papagena-Papageno qui a enthousiasmé et provoqué le rire et les applaudissements chaleureux du public de la salle Corto. Ici dans l'interprétation du ténor Walter Berry, de la soprano Ruth Margaret Pütz, avec le chœur et l'orchestre Philharmonia sous la direction du grand chef Otto Klemperer. Et tout à l'heure, à 15h, Marianne Wurch, ce sera votre deuxième concert découverte autour de Chopin. Avec un titre un peu énigmatique pour certains, raconte-moi la note bleue de Chopin. Pourquoi ce titre, Marianne Wurch?
Alors c'est vrai que, bon, tout d'abord, il est relié à cette collection que j'ai écrite il y a déjà quelques années, qui était la « J'aime la musique », et je choisissais à chaque fois un titre qui était en lien soit avec une des œuvres du compositeur, soit avec un titre un petit peu énigmatique, mais non moins éclairant, cette fameuse note bleue chez Frédéric Chopin, qui était pour Georges Sand, donc sa muse, sa compagne, et c'est surtout cette célèbre écrivain, à l'époque, cet instant mystérieux, cet instant indéfinissable, où soudainement quelque chose se produisait dans l'écoute, dans l'atmosphère, dans la couleur du moment, et on appelle ça la note bleue, comme en jazz aussi, il y a ce blues, comme le bleu du Guerlain, le bleu est cette couleur comme, qui signifie beaucoup, et cette note bleue si mystérieuse, que l'on peut sans doute découvrir en écoutant la musique de Frédéric Chopin.
Pour donner un avant-goût à nos auditeurs, nous avons pensé tous les deux au prélude numéro 15 de l'opus 28, dénommé « Goutte de pluie », sous les doigts d'Alfred Cortot. Une version légendaire qui a du sens, Marianne Wurch.
Bien sûr qu'elle a du sens, puisque Alfred Cortot est quand même à l'origine de cette merveilleuse salle Cortot qui est dans le 17e arrondissement, qui a été construite donc dans les années 1929-1930, donc on s'approche du centenaire. Et c'est une salle que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle a une taille tellement appropriée pour des concerts comme cela, comme des rendez-vous finalement intimes. Elle a pour autant une belle jauge, mais elle est construite d'une telle manière que on a un lien avec le public, et ça c'est extraordinaire, dans des matériaux de bois absolument d'une très grande douceur, d'une magnifique acoustique. Les lumières ont été refaites, elles sont très douces, elles sont feutrées. L'atmosphère de cette salle est un écrin absolu, et donc Alfred Cortot en est à l'origine. Donc je comprends que cette interprétation ait tout son sens.
Écoutons donc le prélude numéro 15 de l'opus 28 de Chopin par Alfred Cortot. Thank you. C'était le prélude numéro 15 de Chopin par Alfred Cortot. Poursuivons l'agenda de vos concerts découvertes, Marianne Vourche. Le 28 mars à 15h, musique française avec Maurice Ravel. Raconte-moi le jardin féerique de Ravel. Pourquoi ce titre, Marianne Vourche?
Alors, le jardin féerique fait partie de cette série de petites pièces, ma Merlois pour piano à quatre mains, qui sont des petites pièces donc qui ont été composées pour des enfants qui étaient les enfants d'amis de Maurice Ravel, un petit garçon et une petite fille qui avait une dizaine d'années et qui jouait donc du piano. Et Maurice Ravel, ce compositeur et ce personnage si raffiné mais en même si drôle et si fin, aimait profondément jouer avec les enfants. Il avait une capacité à se mettre à quatre pattes et à mimer les animaux. Enfin, voilà, il laissait absolument tomber éventuellement c'est une carapace d'un individu un petit peu enfin qui avait déjà une très belle renommée et il se mettait au niveau des enfants avec un très grand naturel. Et donc il a composé cette série de pièces inspirées des contes, des fameux contes de Merlois. Donc on a la Belle au bois dormant, on a les Pagodins Pagodines, on a le Petit Poussé. Donc toutes ces petites pièces sont absolument délicieuses et il a fini son cycle avec ce fameux jardin féerique qui ne répond d'aucune histoire, sinon finalement la sienne sans doute, qui est une œuvre d'éclat, de lumière, de mystère aussi, un petit peu comme exactement comme on découvrirait un jardin ancien de feuillages, de fleurs mêlées, et où les animaux magiques ou féeriques pourraient apparaître comme ça. Donc c'est vraiment une pièce au piano qui est éclatante, éblouissante, et j'ai repris ce titre parce qu'il me semblait une invitation justement à ce moment féerique.
C'est une pièce absolument délicieuse que nous allons maintenant écouter, donc le Jardin féerique, dernière pièce de la suite Ma Merlois de Maurice Ravel. Maurice Ravel sur IDFM Radio. Les pianistes Philippe Bianconi et Clément Lefebvre étaient les interprètes du merveilleux Jardin féerique, la dernière pièce de la suite de Mamerlois. Et puis, le 18 mai à 15h, ce sera déjà le quatrième et dernier pour cette saison de vos concerts découvertes, Marianne Vourche, avec Tchaïkovski. Raconte-moi le signe blanc de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Alors là, on va rentrer dans l'univers des ballets de Tchaïkovski, qui lui-même était un danseur, adorait danser, et donc il a composé ces ballets absolument extraordinaires, qui recèlent de féerie, de beauté, de couleurs harmoniques absolument extraordinaires, et nous allons nous focaliser sur les plus belles valses qui apparaissent, qui jaillissent dans chacun de ces ballets, et ça nous donnera l'occasion de traverser la vie de ce compositeur qui était entre la Russie et l'Europe, puisqu'il venait très souvent en France, mais aussi voyageait en Italie, donc il était imprégné d'une culture occidentale, mais aussi de toute sa culture russe. Et ce ballet, ces ballets étaient des pièces majeures de son répertoire, et les danses sont pour moi, comment dirais-je, une porte d'accès à ces compositions par la danse, et peut-être danserons-nous la valse ce jour-là.
Et dire que en 1877, lors de la création à Moscou, ça n'a pas été un succès, le Lac des Cygnes.
L'histoire est toujours troublante, mais je crois que le temps a rattrapé ce premier
on peut le dire.
Premier jet. Voilà.
On peut le dire, puisque le Lac des Cygnes, c'est pratiquement le ballet le plus célèbre du monde.
Oh, voilà, donc pourquoi, on ne sait pas, soudain peut-être il y avait sans doute des messages qui troublaient à l'intérieur de cette histoire de cygne.
Eh bien, nous allons valser grâce à vous, Marianne Vourche, sur la valse du Lac des Cygnes. Thank you. C'était la valse de la suite extraite du ballet Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. L'immense violoncelliste et chef d'orchestre Mstislav Rostropovitch dirigeait le Philharmonique de Berlin. Sur le plan pratique, comment fait-on pour réserver ses billets, Marianne Wurch?
Eh bien, il y a sur le site de la salle Cortot l'accès direct à la billetterie pour réserver.
Pour tout à l'heure, je vous conseille... Pour nos auditeurs, si vous êtes disponibles, de passer une heure avec Chopin, avec vos enfants ou petits-enfants, et leur faire découvrir ou découvrir vous-même sa note bleue. Venez à la salle Cortot, je crois qu'il reste encore quelques places, et je vous assure que vous passerez un très, très bon moment. Merci beaucoup, Marianne Wurch.
Mais merci à vous, merci infiniment.
Nous allons vous libérer avant votre concert découverte de cet après-midi, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.